France Inter.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La très forte remontée du chômage fin 2024, plus mauvais chiffre depuis 10 ans en France, exception faite de l'épisode Covid. Explication dans un instant. À suivre encore la République démocratique du Congo et le Rwanda au bord de la guerre directe. Les forces du Rwanda et les rebelles du M23 sont entrées ces dernières heures dans la ville de Goma. Nous vous donnerons les dernières informations. Nous serons en Pologne également avant les commémorations du 80e anniversaire de la libération des camps de la mort. Et puis en direct d'Ille-et-Vilaine également, tout près de Rennes. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour.
Pas d'accalmie de votre côté pour les crues.
Oui, si l'eau continue de monter, les habitants évacuent ou tentent de repousser la crue comme ils le peuvent avec des parpaings ou des planches en bois, vous l'entendrez.
A tout de suite pour vos explications. Nous serons également à Marseille dans les prochaines minutes. Des condamnations ce matin dans le procès des procurations frauduleuses aux municipales de 2020. Et puis l'intelligence artificielle. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Qui a permis hier à l'ancien journaliste Charles Bietri de témoigner de son combat contre la maladie de Charcot.
Oui, une voix reconstituée par l'IA, son timbre, ses intonations d'une grande ressemblance, car aujourd'hui Charles Bietri ne peut plus s'exprimer à cause de la maladie.
A tout de suite, à partir de 13h30, nous parlons de nos langues régionales en voie de disparition accélérée. Le breton, par exemple, a perdu la moitié de ses locuteurs en 6 ans. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, une semaine dans la vie d'une famille qui accueille des patients. Ils souffrent de troubles psychiatriques.
On me compare à Sœur Teresa, alors ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. Moi, j'accueille des personnes chez moi. C'est pas du bénévolat que je fais, c'est un métier.
Et c'est un métier qui recrute. Nous passons cette semaine en Lorraine. 13h50, c'est la France. Avant le salon de la BD d'Angoulême, les mots du dessin avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson Adèle Castillon, Henri Salvador et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les plans sociaux et faillites le laissaient deviner. Voilà un chiffre qui confirme la mauvaise passe de l'économie française. Le chômage a fortement augmenté au quatrième trimestre 2024, plus 3,9%. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
C'est la plus forte hausse, hein, je le disais, depuis 10 ans, si l'on accepte bien sûr les années Covid.
Une hausse très très forte. 113 000 personnes de plus inscrites à France Travail en catégorie A. Autrement dit, ces hommes et ces femmes qui n'ont absolument pas travaillé sur les trois derniers mois, hors Covid, hors période de confinement. Il faut même effectivement remonter à 2008, la crise de l'époque, pour trouver des hausses, des chiffres similaires, nous disait un observateur du marché du travail ce matin, ce qui reflète le retournement constaté maintenant depuis plusieurs semaines. On voit ici la traduction des premiers plans sociaux en novembre-décembre, Michelin, Auchan, pour ne citer qu'eux. Et là, ce que nous disent les analystes, c'est que toutes les catégories augmentent, les jeunes, les moins jeunes, pour les femmes, pour les hommes, tout le monde voit la situation se dégrader, que l'on soit en CDD, en intérim, les missions sont moins nombreuses et malheureusement, analyse notamment l'OFCE, c'est le signe encore une fois d'un retournement qui ne va pas durer qu'un seul trimestre.
Merci Maxime Debs pour ces explications. Et l'on arrive à ce conflit qui fait rarement, c'est vrai, la une de l'actualité car il touche une région difficile d'accès, peu de médias sont présents sur place et ce conflit n'implique pas directement de grandes puissances. Mais c'est une guerre qui menace aujourd'hui de dégénérer en guerre ouverte entre deux pays, la RDC, République démocratique du Congo, et le Rwanda. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, est en passe de prendre le contrôle de la ville de Goma. Nous sommes dans l'est de la RDC, 1 million d'habitants et autant de déplacés. Il y a même eu des échanges de tirs entre des soldats des deux pays ce matin à la frontière. Nathanaël Charbonnier et Eric Bégala sont avec nous pour comprendre ce qui se joue sur place. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vous donne la parole dans une minute, juste après avoir écouté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce matin.
Dans la région des Grands Lacs, les combats font rage, alors que Goma s'apprête à tomber. La France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces armées rwandaises, qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoquer le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre.
Jean-Noël Barrot, ce matin, le ministre des Affaires étrangères. Nathanaël Charbonnier, c'est une escalade militaire en ce moment à laquelle on assiste entre d'un côté la RDC et de l'autre côté le Rwanda.
Oui, on tire en effet dans les rues de Goma. Les combattants du M23 soutenus par 3500 soldats rwandais quand même ont pénétré dans le centre-ville qui est la capitale régionale qui compte, vous l'avez dit, 1 million d'habitants. Alors l'information est confirmée par tout le monde, l'ONU, par les journalistes sur place. Ce matin, des tirs d'artillerie lourdes ont été entendus et signe du chaos actuel, la prison de la ville qui comptait environ 3000 détenus a été totalement incendiée à la suite d'une évasion massive qui a causé des morts. À noter que de nombreux prisonniers ont pu s'échapper. Il faut savoir que l'arrivée des forces soutenues par le Rwanda entraîne deux sortes de réactions. Des scènes d'exode avec des files de personnes à pied, matelas sur la tête qui fuient et des scènes de liesse, notamment dans certains camps de réfugiés gérés par la MONUSCO, c'est-à-dire l'ONU qui a une mission de maintien de la paix sur place et d'aide aux populations dans l'est de la République démocratique du Congo. À noter que la frontière avec le Rwanda est fermée depuis ce matin. À Goma, personne n'entre, personne ne sort à part quelques personnels de l'ONU. Et puis, sur le plan diplomatique, dernier point, le président kényan, William Ruto, a annoncé dans un communiqué vouloir réunir dans les prochaines 48 heures un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, sommet auquel pourraient participer les deux présidents, congolais et rwandais.
Éric Biegel, je voudrais qu'on s'arrête avec vous sur les causes de ce conflit et sur le rôle que joue un pays qui gagne en importance depuis des années dans la région, c'est le Rwanda.
Oui, alors l'élément déclencheur en fait de la reprise des affrontements dans l'Est congolais, c'est l'arrêt abrupt le 19 décembre dernier des pourparlers préparatoires à une rencontre au sommet entre les présidents congolais et rwandais, comme le rappelle Christophe Rigaud du site d'information Africa Arabia consacré à l'actualité de la République démocratique du Congo.
On assiste à une accélération du conflit essentiellement à cause de l'échec de négociations de paix à Luanda entre la RDC et puis le Rwanda qui soutient ce fameux M23. Et c'est vrai que souvent, lorsque la diplomatie est en panne, ce sont les armes qui prennent le relais.
Alors, que le Rwanda soutienne le M23 militairement n'est un secret pour personne, et ce depuis très longtemps. Sultani Makenga, le chef militaire du M23, les rebelles congolais, est d'ailleurs un ancien combattant du Front Patriotique du Rwanda, le FPR, actif pendant la guerre civile au Rwanda dans les années 90. FPR, qui est aujourd'hui le socle sur lequel s'appuie le régime de Paul Kagame au Rwanda. Un rapport d'enquête de l'ONU, diffusé cet été, faisait état de 3 à 5 000 militaires rwandais opérant dans l'est du Congo avec le M23. Et pour ce qui est de la dernière offensive, on a vu le déploiement d'aéronefs tels que des drones Bayraktar TB2 et des bombardements aériens opérés par ces engins près de Goma. Le M23 ne dispose pas de ces drones, le Rwanda si.
Rapidement Eric, est-ce qu'il y a un espoir que la diplomatie évite une guerre totale ?
Alors, Nathanaël le rappelait, il y a eu ce week-end, enfin hier soir, William Ruto, le chef de l'État kényan qui préside la communauté d'Afrique de l'Est. Il a convoqué un sommet extraordinaire de cette communauté, sommet extraordinaire d'urgence, d'ici à demain, sommet auquel pourraient participer, selon lui, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, qu'il a appelé séparément ce dimanche.
Merci à tous les deux pour vos explications. Là, c'est la trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza depuis 9 jours. Cessez-le-feu qui prévoit des libérations d'otages israéliens. 6 seront relâchés cette semaine. Des libérations de prisonniers palestiniens, mais aussi le retour chez eux des déplacés du nord de la bande de Gaza, qui sont bloqués au sud depuis des mois. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Ces déplacés ont l'autorisation de rentrer chez eux depuis ce matin. Ce qu'ils font par milliers, les images sont très impressionnantes.
Et elles sont tournées par des drones palestiniens. On voit donc une marée humaine qui remonte à l'aube dans le froid vers la partie nord de l'enclave. La foule avance sur une route côtière. Certains de ces Gazaouis ont des sacs à la main. Sur une autre route, il y a là des voitures surchargées dans des embouteillages pour entamer aussi cette migration. L'armée israélienne s'est retirée d'une partie de ce qu'on appelle le corridor de Netzarim. Jusqu'à présent, c'était une route militarisée qui coupait l'enclave en deux de manière hermétique au nord de la ville de Gaza. Ce passage vers le nord aurait dû être ouvert plus tôt, mais il est devenu ce week-end un nœud dans les négociations. Il a finalement été levé. Les déplacés sont donc retournés en masse vers leur ancienne vie. On voit des familles qui se réunissent après des mois de séparation forcée et des habitants qui tentent de retrouver leur maison. Pour beaucoup, c'est un nuancier d'émotions. Asma Tantesh raconte qu'il y a la joie de retrouver son lieu de vie et le choc de la disparition de l'habitat. Elle est restée à Beit Laïla. Elle explique que les destructions sont massives et qu'il sera difficile pour ces Gazaouis de se réinstaller aujourd'hui. L'eau et la nourriture manquent encore dans ce secteur de la bande de Gaza. Cela n'empêche pas le Hamas de faire de ce retour un outil de propagande. Le groupe armé considère que cette remontée est une victoire qui symbolise l'attachement des Gazaouis à leur terre et l'impossibilité de la leur arracher.
Bande de Gaza où les journalistes étrangers ne peuvent toujours pas accéder. Merci Étienne Monin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'assiste pas aujourd'hui en Pologne aux commémorations de la libération des camps de la mort. 80 ans après, il est représenté par l'un de ses ministres. Les cérémonies se déroulent cet après-midi dans l'ancien camp d'Auschwitz-Birkenau. 1 100 000 juifs y ont été exterminés sur les 6 millions tués par l'Allemagne nazie. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place, Sarah, pour Inter. La cérémonie se déroule cet après-midi, je l'ai dit. Mais ce matin, d'anciens détenus se sont rassemblés, accompagnés par le président polonais.
Un moment de grande solennité dans la cour adjacente au bloc 11 du camp d'Auschwitz 1, ce bloc surnommé la prison dans la prison, celui qui servait de lieu de punition et de torture. Après un dépôt de gerbes de fleurs, quelques dizaines de survivants, bougies à la main, sont lentement venus les déposer au pied du mur de la mort, là où des milliers de détenus ont été fusillés par les nazis. Micro-cérémonie tout en silence, avant de mettre en valeur la parole de ces rescapés cet après-midi, ils témoigneront sous cette immense tente blanche dressée au-dessus de l'entrée du camp de Birkenau, juste à côté d'un authentique wagon ayant servi à la déportation. Image forte, appuyée, Jérôme, par le fait qu'aucune personnalité politique ne prendra la parole. C'est une première pour un grand anniversaire.
Parmi les personnalités politiques présentes sur place, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé. Mais Vladimir Poutine, le président russe, lui, ne sera pas là. C'est bien l'armée soviétique, l'armée rouge, qui avait libéré ce camp. Mais Poutine n'a pas été convié en raison de la guerre en Ukraine.
Oui, tout un symbole, alors que ce sont les soldats soviétiques, en effet les éclaireurs de la 60e armée du premier front d'Ukraine, qui les premiers ont découvert l'horreur du camp et les 7000 hommes, femmes et enfants encore sur place. Mais 80 ans après, impossible de convier la Russie, selon Pavel Savitsky, porte-parole adjoint du musée d'Auschwitz.
It was not Russia who liberated Auschwitz.
Ce n'est pas la Russie qui a libéré Auschwitz. Auschwitz a été libéré par l'armée rouge de l'Union soviétique. Quand vous regardez quels soldats étaient présents dans cette zone, vous voyez que le nombre de Russes et d'Ukrainiens était très similaire. Et aujourd'hui, un libérateur en a agressé un autre. Nous avons donc pris une décision en toute conscience.
Une décision qui n'a pas empêché Vladimir Poutine de louer l'action de l'armée soviétique ce matin, mais à distance dans un message publié par le Kremlin.
Sarah Mansoura en direct d'Auschwitz-Birkenau avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro avant de rejoindre la Pologne cet après-midi. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu lui ce matin à Paris au mémorial de la Shoah. Nous ne céderons rien face à l'antisémitisme sous toutes ses formes, a-t-il écrit sur le livre d'or du mémorial. Dans un contexte d'augmentation en France des actes antisémites depuis les attentats du 7 octobre du Hamas contre Israël, et c'est le même phénomène en Italie où les effets de la guerre à Gaza ont été délétères auprès des jeunes générations notamment. À Rome, Bruno Duvic.
En novembre 2023, près de la moitié des étudiants italiens comparaient l'attitude du gouvernement israélien à celle des nazis. Sondage plus récent, personnes de tous âges, 7% nient l'existence de la Shoah, 13% estiment peu important de conserver son souvenir. Milena Santorini, de la Fondation Mémorial de la Shoah de Milan.
Je redoute que les jeunes générations perdent l'idée que la Shoah a été un point de non-retour.
Cette dérive est notable à l'extrême gauche, mais l'antisémitisme d'extrême droite reste enraciné chez environ 15% des Italiens. L'été dernier, une enquête journalistique avait montré des jeunes militants de Fratelli d'Italia entonnant des slogans nazis. Quant à Giorgia Meloni, son soutien à la communauté juive est constant depuis le 7 octobre, mais Gadi Luzzatto dirige la fondation qui documente l'antisémitisme. Quand la première ministre fait une allusion à l'influence du philanthrope George Soros lors de sa dernière conférence de presse,
c'est un classique du langage antisémite de ces 40 dernières années. Elle le sait très bien, comme elle sait très bien que cela va plaire à des gens de son camp politique qui sont profondément antisémites.
26% des Italiens seraient au moins gênés que leurs enfants soient en couple avec un juif.
Alors à chaque fois que de tels actes ou paroles antisémites sont constatés en France, police et justice enquêtent pour retrouver les auteurs et les juger. C'est ce qui s'est passé au sujet de dégradations antisémites dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris. À l'automne dernier, une une femme les avait dénoncés. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Eh bien, les policiers viennent de découvrir que c'est elle qui avait réalisé ces inscriptions.
Oui, Nancy avait largement médiatisé ces différentes plaintes, 10 au total, pour des tags antisémites, effectivement, sur sa porte, dans sa cage d'escalier. Elle, qui vit dans l'immeuble où avait été tuée Mireille Knoll il y a 7 ans.
Voilà, ce qu'on voit sur les escaliers avec étoile de David, les croix gammées également. Ici, maintenant, on en est à mort aux juifs. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ça ? Il y a eu des nuits, je dors plus. Ma fille qui est plus grande, elle finit par détester tout le monde.
Mais rapidement, les enquêteurs de la Sûreté parisienne ont eu des doutes. Ils avaient récupéré les vidéos du voisinage, celles de la préfecture de police, mais rien de suspect. Ils sont allés jusqu'à poser des caméras dans l'immeuble et là, les tags se sont arrêtés. Bizarre, sauf que Nancy avait alors cette fois reçu un courrier de menace à caractère antisémite. Et là, les enquêteurs sont allés jusqu'à vérifier qui avait acheté le timbre payé en carte bleue à la poste, celle de la plaignante. Les policiers ont au même moment posé discrètement une autre caméra dans la cage d'escalier où l'on voit Nancy et sa fille commettre des dégradations dans l'ascenseur. Deux preuves indiscutables. 24 heures de garde à vue pour qu'elle passe aux aveux la semaine dernière. On sait que la famille voulait quitter l'immeuble. Est-ce la seule explication ? On le saura le 31 mars prochain, date de son procès.
Emmanuel Leclerc pour ces informations, j'ajoute que France Inter consacre ce soir une émission spéciale au 80e anniversaire de la libération des camps. Philippe Collin, accompagné de derniers témoins, sera en direct et en public de l'auditorium du mémorial de la Shoah. C'est entre 20h10 et 22h. Deux jours après la mort du jeune Elias, 14 ans, agressé vendredi soir à Paris à la sortie de son entraînement de foot, les deux mineurs suspectés sont toujours en garde à vue. L'un des deux a reconnu avoir donné le coup de couteau mortel. Il tentait de lui dérober son téléphone portable. Ces deux jeunes âgés de 17 et 16 ans étaient déjà connus de la justice. Toujours à Paris, la mairie du 12e arrondissement, ravagée par un incendie la nuit dernière, le feu a gravement endommagé le campanile qui surplombe le bâtiment. Pas d'informations à ce stade sur l'origine du sinistre. À Marseille, les élections municipales de 2020 avaient été entachées par une affaire de procuration frauduleuse. Un policier avait validé près de 200 procurations, dont une cinquantaine au nom de pensionnaires d'EHPAD, certains atteints de la maladie d'Alzheimer. Et tout cela au profit, selon les enquêteurs, de la candidate de la droite, Martine Vassal, qui, elle, n'était pas poursuivie. Mathilde Vinceneux, le jugement était rendu ce matin. Le policier a été condamné, mais un ancien maire de secteur lui a été relaxé.
C'est contre l'ancien maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille, Julien Ravier, principal bénéficiaire des fausses procurations, que le parquet avait demandé la peine la plus lourde, 10 ans d'inéligibilité. Mais le tribunal l'a relaxé ce matin car aucun élément matériel n'a permis de démontrer sa culpabilité. Son directeur de campagne est en revanche condamné. C'est lui qui a actionné, estime le tribunal, le directeur d'un EHPAD pour obtenir l'identité d'une cinquantaine de résidents, la plupart nonagénaires et atteints d'Alzheimer. La peine la plus lourde revient au commandant de police qui a tamponné toutes ces fausses procurations alors qu'il était en congé. 3 ans de prison, dont un enferme sous bracelet électronique. Certaines procurations concernaient aussi le 6e et 8e arrondissement. L'ancien maire de ce secteur, Yves Morenne, est lui condamné à 6 mois de prison avec sursis, 1 an d'inéligibilité. Mais il n'y a pas que la droite marseillaise qui est éclaboussée. Dans une autre affaire, le tribunal a condamné ce matin 2 conseillers municipaux de gauche jusqu'à 18 mois de sursis pour des fausses procurations dans les quartiers nord.
Le maire de Marseille, lui, a réagi ce matin, non pas à ce jugement, mais à la banderole déployée par des supporters de Nice hier soir avant le match face à l'OM. Banderole qui qualifie les Marseillais de rats. Les propos racistes ne sont pas tolérables dans un stade. Je demande à la Ligue de football professionnel de ne pas laisser passer, écrit Benoît Payan. Fin de citation.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'eau continue de monter à Rennes et dans sa région et c'est loin d'être terminé. Ce sont deux fleuves, l'Ille et la Vilaine, qui débordent en ce moment sous l'effet des fortes pluies de ces derniers jours. Hier après-midi, 400 personnes ont été évacuées à Rennes à titre préventif et des gymnases ouverts dans la ville pour accueillir les habitants qui n'ont pas de solution de relogement. Mais la situation est en fait difficile dans l'ensemble du département qui est désormais classé en vigilance rouge. De très nombreuses routes sont coupées, des liaisons en train perturbées et des écoles fermées. Caroline Félix, on vous retrouve au sud de Rennes, sur la commune de Guichen. Vous êtes au lieu-dit Pont-Réan. Vous avez l'œil sur la Vilaine en crue et des habitants tentent de partir.
Oui, comme cet homme qui remonte la rue principale du bourg à bord d'un kayak rouge. Derrière lui, sur l'embarcation, une dame avec une grosse valise noire entre les jambes.
C'est le kayak de mon copain, mais eux, ils sont dans la maison, donc on les évacue un par un. C'est la première. Tiens, Esther, tu attends à l'église ?
On va aller rechercher Béa.
Il y a du courant là-bas, en fin de compte, donc c'est assez dangereux. Hein. Voilà, donc je suis venu donner un petit coup de main pour nous mettre les meubles.
Et un peu plus haut, dans la rue, l'eau commence à s'infiltrer partout, dans les maisons. Les habitants disposent des planches de bois et des parpaings devant les portes. Sylvie, elle, installait une pompe et un bâtard d'eau de fortune devant son salon.
Bah, une planche avec silicone. D'accord. Pour essayer d'empêcher l'eau de rentrer, mais bon, ça sort par les égouts, ça sort partout, donc peut-être pas faire grand-chose, mais si peu qu'on peut faire, on fait.
Et elle s'inquiète pour sa maison, d'autant qu'avec son mari, elle voudrait la vendre. Comme presque tous les habitants, sa voisine Soraya a surélevé frigo, canapé et autres meubles de son rez-de-chaussée avec les parpaings distribués par la mairie. Soraya, cette maman solo qui charge ses affaires et celles de ses deux filles dans le coffre de sa voiture.
On va partir en Normandie, dans ma famille, parce que bah voilà, le temps qu'il faudra pour que ça redescende. Et puis bah, mes filles resteront encore en Normandie pour que je puisse nettoyer mon logement, à savoir s'il va être habitable. C'est pas trop le moment, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est faut, tant qu'il n'y a pas de blessés ni de morts, enfin, voilà, c'est ça le principal en fait.
Et ici à Guichin, le niveau de l'eau devrait encore monter jusqu'à 5 mètres demain, du jamais vu, d'après le maire.
Caroline Félix en Bretagne pour Inter avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Alors je vous le disais, la décrue n'est absolument pas au programme. Et les communes situées entre Rennes et le Morbihan, là où est située l'embouchure de la Vilaine, ces communes vont maintenant être concernées. Écoutez Lucie Chardoun-Facon, c'est la directrice du service central de Vigicru.
Le pic de crue, notamment pour la Vilaine, n'est pas attendu avant demain. La crue va continuer dans les jours qui viennent ensuite à se propager plus à l'aval, donc sur le secteur de la Vilaine aval, donc vers Avessac, puis vers Redon également. Il convient d'être encore très prudent, d'autant que de nouvelles pluies en fait sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi, avec des volumes qui sont conséquents pour le secteur et donc qui risquent de réactiver les crues en cours, donc d'une part sur la Bretagne, mais en fonction de la localisation exacte des précipitations qui arriveront donc dans la nuit de mardi à mercredi, on pourrait avoir également d'autres secteurs qui se réactivent sur des cours d'eau qui sont actuellement en orange, voire des cours d'eau qui sont en jaune.
La directrice du service central de Vigicru au téléphone de Rosalia MacArthur. Au total en Bretagne, 20 000 foyers étaient ce matin privés de courant. 5 autres départements de l'Ouest sont aussi en orange pour les crues. 2 départements bretons en vigilance orange pour vagues, submersion, Finistère et Morbihan. Dans les Hautes-Alpes également, c'est de l'orange, mais là, rien à voir. C'est pour les avalanches. Météo complète avec Élodie Calac. Dans une dizaine de minutes, j'ajoute que dans les Pyrénées, 2 randonneurs ont été ensevelis par une avalanche hier sur une piste noire de la station de ski du Grand Tourmalet. Cela s'est passé dans une partie du domaine skiable, mais partie qui était fermée au public en raison d'une tempête. À Mayotte, 6 semaines après le passage du cyclone Chido, les élèves ont pu retrouver le chemin des cours ce matin, même si 45 écoles sur 221 reste fermé pour le moment. Noémie Bonin, vous êtes depuis ce matin au lycée des Lumières, à Mamoudzou, très gros établissement, 2800 élèves. Et pour cette première journée, il faut d'abord gérer les urgences matérielles des jeunes.
Beaucoup d'élèves ont tout perdu dans le cyclone. Le lycée leur a donc distribué avant toute chose ce matin un kit de fourniture scolaire.
Vous avez le matériel géométrie, des fiches plastiques, des stylos, une colle, une gomme.
Une base pour se remettre au travail.
Comme si la jambe tuait, parce que comme ça je pourrais pouvoir être comme les autres, avoir quelque chose de quoi écrire.
Est-ce que vous êtes contente malgré tout de revenir en classe au lycée?
Oui, je suis très contente de venir ici. J'ai vu mes professeurs, mes amis, même si c'est plus comme avant, mais
on peut reprendre l'école, c'est déjà ça. On a pris trop de retard.
Ils sont nombreux à partager ce stress. Ces élèves de terminale ont le bac à la fin de l'année. Il faut aussi faire ses vœux sur Parcoursup. Pas simple de se projeter quand on n'a plus de toit, plus de vêtements. La majorité des jeunes ici habitent dans les bidonvilles tout autour du lycée. L'ampleur de la tâche est immense, témoigne le proviseur Patrick Loval.
Il y a tellement de demandes qu'on ne sait pas comment on va faire pour lui répondre. Ils ont besoin de manger, de boire, d'être hébergés. Donc on essaie avant tout de répondre à ces besoins primaires, si je puis m'exprimer ainsi, qui permettra de remettre enseigne.
Les classes sont quasiment au complet. Aujourd'hui, très peu d'absents finalement. Les élèves ont désormais hâte de se remettre au travail et de retrouver un semblant de normalité.
Reportage Noémie Bonin et Virginie Lorda, la ministre de l'Éducation nationale et celui des Outre-mer, sont attendus sur place jeudi matin. Autre dossier à l'agenda du gouvernement cette semaine, les budgets. L'examen du budget de la Sécu qui avait fait tomber Michel Barnier à l'automne reprend aujourd'hui devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de celui de l'État, l'heure est encore aux arbitrages et donc aux alertes pour les perdants. C'est le cas du budget des universités. Il devait être amputé de 500 millions d'euros. Ce sera finalement 400 millions, mais les conséquences seront lourdes et moins d'étudiants pourront être accueillis, prévient Dean Lewis. C'est le vice-président de France Université.
À un moment ou à un autre, les établissements vont être amenés à supprimer grosso modo l'équivalent de 3 à 4 000 emplois. Si on combine des enseignants-chercheurs, des professeurs avec des personnels administratifs. Donc je pense que les présidents d'université vont être amenés à regarder les formations qui coûtent le plus, qui ont le moins de recettes, de budget et qui ont le moins d'effectifs. Les premières annonces que l'on a eues, c'est par exemple la fermeture d'une école de psychomotricité à Sorbonne Université. Il y a l'université de Bretagne-Ouest qui a annoncé des baisses de capacité d'accueil en STAPS et en psycho, par exemple, de 30%. Donc on est aujourd'hui en discussion pour essayer vraiment de faire comprendre à notre ministère que le compte n'y est pas et qu'on est sur un enjeu de souveraineté économique, de leadership scientifique. Et puis on forme des citoyens éclairés aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe avec de la désinformation partout. Et donc on a besoin de l'université.
Le président de l'université de Bordeaux au micro de Sonia Princey. Et l'on en vient donc à cette interview qui est aussi un motif d'espoir pour de nombreux malades qui sont désormais privés de leur voix. Charles Bietri, figure de la télévision française, ancien patron des sports de Canal+, s'est exprimé hier dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Un entretien pas comme les autres puisque l'ancien journaliste ne peut plus parler. Il est touché par la maladie de Charcot depuis 3 ans, elle paralyse petit à petit tous ses muscles. Victor Vasseur, vous êtes avec nous, vous avez vu cette interview. Expliquez-nous comment l'intelligence artificielle a pu reproduire sa voix.
Déjà dès le début de l'interview, Charles Bietri prévient.
Les mots sont dans ma tête et je ne peux pas les faire sortir.
Alors la journaliste Audrey Crespo-Mara a transmis les questions en amont à Charles Bietri, qui a pris le temps d'y répondre sur son ordinateur. Puis ses réponses prennent vie grâce à l'intelligence artificielle.
Non seulement je ne parle plus, mais je me nourris très difficilement de poissons et de purées.
Pour vous faire une idée, voici la vraie voix de Charles Bietri dans une interview en 2012.
Je connais relativement bien les débuts de Canal et la manière dont les abonnements se sont faits. Je dis pas, comme on dit maintenant, 50% des abonnés de Canal viennent pour le sport. C'est pas vrai.
Le timbre de voix est quasiment le même. Hein. Oui, on entend légèrement son aspect métallique, c'est un détail. Dans le reportage de 7 à 8, Charles Bietri apparaît grand sourire face caméra. Il vit ses réponses en remuant ses mains. Dans un coin de l'écran, une petite inscription apparaît à chaque réponse. IA, pour rappeler que ce n'est pas sa vraie voix. Techniquement, il faut envoyer plusieurs minutes de sa vraie voix dans un logiciel qui sera ensuite capable de la reconstituer. Mais il faut le rappeler, hein, donner son accord est obligatoire avant de reproduire sa voix.
Victor Vasseur, de nombreux patients utilisent l'IA aujourd'hui.
Oui, par exemple, l'entrepreneur Olivier Goua, 50 ans, utilise ce type de logiciel pour s'exprimer. Comme lui, des milliers de patients ont recours à une voix de synthèse, et pas seulement ceux touchés par la maladie de Charcot. Des patients atteints de la sclérose en plaques également utilisent ce type de logiciel.
Merci Victor Vasseur pour ces explications et je salue Charles Bietri qui, je le sais, est un auditeur régulier de ce 13-14, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac, puis à 13h30, les langues régionales, de moins en moins de locuteurs. La dernière enquête sur le breton est plutôt alarmiste, alors comment réagir? Est-ce que ça passe par un apprentissage plus large à l'école avec davantage de moyens? Vous êtes déjà très nombreux à vouloir participer, nous rejoindre, continuez à le faire, 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans la vie d'une famille d'accueil thérapeutique, famille qui accueille des patients atteints de troubles psychologiques. Si nous serons en Lorraine, tout près de Nancy. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, les mots du dessin avant le début cette semaine du festival de la bande dessinée d'Angoulême.
On aiguise nos crayons de bois, ou alors peut-être je devrais dire nos crayons gris. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des mots du dessin.
J'ajoute le crayon de papier qu'on peut aussi utiliser, vous nous arbitrerez tout ça. Et avec vous Frédéric, une chanteuse.
Adèle Castillon, nommée l'an dernier dans la catégorie Révélation féminine aux Victoires de la musique. Elle sera en concert à l'Olympia mercredi. Et avec elle, nous écouterons une chanson d'Henri Salvador. J'étais une bonne chanson. Chanson liée pour elle au souvenir d'un homme qu'elle considérait comme son grand-père d'adoption.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche. Contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi, faites un leg à l'Institut du cerveau.
Demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr.
Attendez deux secondes, je prends mes aides auditives.
Ah ça, toi, j'ai jamais remarqué.
Ah, écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible. C'est plus pour sortir.
Eh ben monsieur a les moyens, dis donc.
Mais non, afflelou.
Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1€ de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps reste agité, donc prudence à proximité des cours d'eau.
Oui, on a des crues importantes qui se propagent sur le nord-ouest. Calvados, Eure, Orne, Mayenne et Maine-et-Loire sont en vigilance orange pour ces crues. Et Ille-et-Vilaine, placée en vigilance rouge pour les crues exceptionnelles de la Vilaine médiane et de la Seiche. Hein, extrême prudence. Des pluies parfois copieuses circulent encore du sud du Massif central à la façade est pour cet après-midi. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes. Les Hautes-Alpes sont en vigilance orange. Ailleurs, on a un temps instable avec des averses, alors plus nombreuses et parfois orageuses de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre-Val de Loire et le nord de la Bourgogne. Il y a un risque d'orage et de grésil sur la Bretagne. Le vent souffle assez fort sur les régions de l'Est et sur une bonne partie ouest également jusqu'au nord de la Seine, autour de 110 km à l'heure attendue sur la pointe bretonne. Attention aussi aux fortes vagues, vigilance orange pour le Finistère et le Morbihan et sur tout le littoral atlantique pour cette nuit et demain matin. Et puis tout ça, c'est dans une ambiance plutôt douce pour la saison avec 10 à 14 degrés le plus souvent, jusqu'à 14 à 18 en Méditerranée et au Pays Basque.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Les langues régionales françaises auront-elles quasiment disparu en 2050 ? Nous nous posons la question aujourd'hui après la publication la semaine dernière d'une enquête alarmante. Elle concerne le breton. Selon l'Institut TMO, qui a interrogé près de 8000 bretons dans 5 départements, donc les 4 de la Bretagne administrative auxquels il faut ajouter la Loire-Atlantique, le nombre de personnes qui parlent cette langue a été divisé par 2 en 6 ans, de 214 à 107 000. Et les autres langues régionales, alsacien, corse, occitan entre autres, connaissent à des rythmes différents la même pente, seul le basque a arrêté l'hémorragie. Tout cela malgré les efforts, car ces langues sont beaucoup plus présentes aujourd'hui dans l'espace public et davantage soutenues. Alors que faut-il faire de plus ? Nous en parlons avec nos deux invités. Paul Molac, bonjour.
Bonjour.
Député Liotte du département du Morbihan, vous parlez gallo et breton également, donc pratiquant de ces langues régionales. Avec nous également Marie-Jeanne Verny, bonjour.
Bonjour.
Vous, c'est l'occitan que vous parlez, professeur émérite en langue et littérature occitane à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Je précise que vous êtes membre du collectif pour les littératures en langue régionale à l'école, le rôle de l'école. On va en parler évidemment longuement sur Inter dans les prochaines minutes. 01 45 24 7000. Pour poser vos questions, vous passez également via l'application France Inter. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute ces langues. Et en chanson, la chanson « Nous » de Julien Doré, sortie en 2020, avait été interprétée il y a quelques années, 2021, en corse, en breton, en occitan, en catalan et en créole réunionnais. Voilà, et ainsi vous les avez en oreille et dans l'oreille et en musique. Paul Molac, c'est moins réjouissant cette étude, je voudrais qu'on commence par là, elle concerne le breton, langue que vous parlez. On a confirmation que le nombre de jeunes qui apprennent la langue ne compense pas la disparition des locuteurs plus âgés ?
Oui, tout à fait. Donc, alors même s'il y a une augmentation effectivement dans les jeunes locuteurs, en particulier dans la tranche qui se situe entre 15-24 ans jusqu'à 40 ans, on a une augmentation mais insuffisante pour compenser en fait les vieux qui, hélas, nous disparaissent. Et comme ils étaient très nombreux avec des brittophones de naissance, effectivement, on est passé à 100 000 locuteurs.
Est-ce qu'on fait, Marie-Jeanne Verny, le même constat pour l'occitan ?
Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a un paradoxe, c'est qu'à l'époque où tout le monde, ou presque, était bilingue, donc le temps de mes parents par exemple, oui, les gens qui étaient bilingues n'avaient pas conscience de leur bilinguisme. Et ce bilinguisme était vécu comme honteux, ce qui fait qu'ils ne l'ont pas transmis à leurs enfants. Maintenant, les locuteurs qui naissent sont des gens beaucoup plus conscients de cette richesse qu'est le bilinguisme. Donc évidemment que le marché des langues est tel que dans quelques temps, tout le monde parlera anglais. Je ne crois pas qu'il faille s'en réjouir, mais je pense que paradoxalement, et votre chanson l'a bien montré, la conscience d'une richesse qu'il ne faut pas laisser s'échapper a grandi. Je ne dis pas que ça sauvera quelque chose de naturel qui est le rétrécissement de l'offre linguistique mondiale, mais pour moi la prise de conscience est très importante. Même si, me semble-t-il, on a raté un épisode, celui d'une possibilité de transmission familiale où les locuteurs natifs pouvaient encore parler à leurs gosses. Mais ces locuteurs-là, on leur a fait honte à l'époque. Donc maintenant, ceux qui réapprennent les langues...
Ça, c'était l'opportunité historique, Marie-Jeanne Verny, et qu'on est en train de perdre, c'est ça ?
Tout à fait, oui, oui, oui. Oui, on a gagné en prise de conscience, et évidemment, on a perdu en potentialité de transmission et d'expression sociale de ces langues, qui ont regagné du prestige social. La plupart des collectivités territoriales à l'heure actuelle mettent un point d'honneur à mettre un peu de langue. Paul, je me permets de dire Paul parce que nous nous connaissons depuis très longtemps.
Vous menez le combat ensemble, si je puis dire.
Ben oui, évidemment. Évidemment, et depuis très longtemps. Ouais. Donc Paul a fait passer une loi qui a été votée par une large majorité. C'était pas possible il y a 40 ans.
Mais c'est ça le paradoxe, voilà. Peut-être, Marie-Jeanne Verny, Paul Molac, je me tourne vers vous. On a l'impression qu'on n'a jamais mis autant de moyens, qu'il n'y a jamais eu autant de langues régionales dans l'espace public. Je parle des panneaux, mais pas uniquement ça. Ça, c'est vraiment symbolique. Et c'est à ce moment-là qu'on constate que finalement l'érosion et la baisse, voire même l'effondrement, est toujours là.
Oui, mais il faut bien voir ce qui se passe dans les pays où ils ont recommencé ces politiques-là bien longtemps avant nous, en particulier au Pays de Galles ou au Pays Basque Sud. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces régions-là, même au Pays Basque Nord, donne des résultats. Donc nous, on est parti beaucoup plus tard avec un engagement qui était aussi moins important, qui est monté au fur et à mesure des années, mais qui a été très lent. Et donc, les premières classes bilingues ouvertes en Bretagne, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'inspection académique nous disait « Ah ben, j'ai pas de professeur, j'en ai pas formé suffisamment. » 40 ans après, ils ont toujours pas assez de professeurs, ils n'en ont toujours pas formé assez. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose, un mouvement. Par contre...
Il y a plus de jeunes, pardonnez-moi Paul Molac, il y a plus de jeunes qui apprennent le breton aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans ?
Beaucoup plus.
Ah, beaucoup plus.
Beaucoup plus, oui, beaucoup plus. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, le potentiel qu'on a, c'est 30% des gens qui nous disent « Moi, je voudrais que mes enfants soient en classe bilingue, qu'ils apprennent le breton. » Et on est à peu près à 5%. Donc, vous voyez, on a une belle marge de progression. Mmh. Et donc, toute l'idée de la loi que j'avais faite, c'est que l'éducation nationale doit proposer l'enseignement de la langue dans les territoires concernés à tous les élèves. Donc, moi, c'est ce que je veux mettre en place en Bretagne. Mmh. Et avec ça, effectivement, eh bien, les résultats ne seront pas les mêmes.
Ça demande des moyens considérables, on est d'accord ?
Pas forcément. Vous savez, un instituteur, qu'il soit bilingue, c'est-à-dire qu'il soit capable d'enseigner en breton et en français, ou en français et en occitan, etc., etc., il ne fait pas une heure de plus. Donc, il est formé dans sa formation pour ça. Il faut le former, mais comme on formerait quelqu'un qui soit uniquement monolingue.
Oui.
Et ça, on peut le faire. Et ça ne coûte pas plus cher.
Jean-Michel, vous êtes nombreux à nous appeler, je l'ai dit. Jean-Michel nous appelle du département du Gers. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Anishat.
Nous vous écoutons. Ce qui veut dire bonjour en occitan, c'est ça, je traduis.
Tout à fait, qui veut dire bonjour et au revoir, voilà, c'est une façon de s'ouvrir au monde. Tout à fait.
Merci de ce salut, nous vous écoutons Jean-Michel.
Oui, donc moi, c'était pour témoigner un petit peu sur la perception qu'ont une grande partie, alors on va dire, de gens pas informés ou d'opposants, qui pensent que les langues régionales sont soit un outil patrimonial, soit, c'est le moins pire, soit un outil de repli et de rejet. Et c'est exactement le contraire. Toutes les langues minorisées sont un point de vue de plus sur le monde et un point d'ouverture. Souvent, elles sont transfrontalières, elles font partie de grandes familles de langues. L'occitan fait partie de la grande famille de la latinité, donc ça nous ouvre à toute une partie de pays proches et à une partie du monde. Donc c'est vraiment cette idée-là. On ne peut pas utiliser les langues dites régionales ou minorisées comme un outil de repli identitaire et de rejet de l'autre. Toutes les langues sont des outils de communication, d'ouverture, et qu'elles soient minorisées, régionales, ou qu'elles soient de diffusion planétaire.
Merci, merci pour cette remarque que je soumets à Marie-Jeanne Verny. Que dire à des parents d'enfants qui diraient très bien l'occitan ou l'alsacien, mais peut-être apprendre l'espagnol, l'anglais ou l'allemand aura une utilité plus grande dans un parcours scolaire ou professionnel?
D'abord, l'utilité, bof. Je veux dire, moi, comme enseignante, l'utilité, c'est pas quelque chose que je jouerais en premier. Mais je sais bien,
mais
quand même,
vous avez déjà entendu cet argument.
Oui, mais comme l'a dit Jean-Michel, déjà.
Et puis, il faut trouver un travail, c'est important aussi, pardonnez-moi, mais le CV, c'est quelque chose qui compte.
Ok, mais actuellement, alors parlons CV. Quelqu'un qui aura fait des études ordinaires, mais qui aura l'occitan en plus dans son CV, aura des emplois en plus qui lui seront proposés. Dans les médias, dans les bibliothèques, dans la culture, il y a des emplois qui se créent. C'est un plus. C'est un plus. Et en plus, comme l'a dit Jean-Michel Espinas, au niveau du premier degré, et même du bilingue précoce, de la maternelle, un enfant qui est bilingue précoce, dans une langue dont il peut lire la présence dans les noms de lieux, par exemple, cet enfant aura acquis, tout petit, une plasticité cérébrale qui va le rendre apte, par la suite, à apprendre d'autres langues. Donc, j'ai une petite fille qui est en école bilingue. Je vois la facilité d'apprentissage qu'elle a pour d'autres. Et je vous assure, elle n'est pas handicapée. Hein. Son français est excellent, son occitan est bon, et elle aime l'espagnol, et elle a 8 ans. Donc, c'est vraiment utile, d'abord parce que connaître son environnement immédiat, c'est utile. Ensuite, parce que connaître l'altérité interne de la France, c'est s'ouvrir à l'altérité en général. Donc, refuser les replis, les refuser. Si on est double en soi, on admet que le monde soit pluriel. Donc, d'un point de vue citoyen, c'est extrêmement riche.
Ce remplacement des générations, Paul Molac, on l'a dit, hein, une génération qui s'en va et qui pratiquait ces langues régionales en masse, et une jeune génération qui arrive et dans laquelle les pratiques est beaucoup plus minoritaire. Est-ce que ça change aussi la pratique de la langue? Est-ce que le breton que les anciens parlaient est différent de celui que vont apprendre les jeunes qui vont l'apprendre plutôt à l'école que dans l'environnement familial?
Alors, effectivement, il y a des choses qui vont changer, parce que les anciens étaient essentiellement liés au milieu agricole. Et aujourd'hui, le breton, vous allez le retrouver sur vos smartphones, sur Internet, etc. Donc, le monde a changé. Donc, la langue bretonne change, comme d'ailleurs, je ne parle pas français aujourd'hui, comme le faisait mon grand-père. Donc, effectivement. Non, ce que disait Marie-Jeanne tout à l'heure est tout à fait juste. Et nous, honnêtement, aujourd'hui, on a du mal à trouver des brittophones là où on voudrait les mettre, dans les bibliothèques, dans l'enseignement, dans les secrétariats de mairie, etc. On n'en a pas assez. Hein. Franchement, quelqu'un qui a ce plus-là sur son CV, il a vraiment plus de chances d'avoir un emploi.
Bernard nous appelle d'Abydos, c'est comme ça qu'on dit, Bernard?
Oui, Béarn.
Dans le Béarn. Vous parlez peut-être le béarnais d'ailleurs vous-même, Bernard?
Oui, je le parle, je l'écris, je l'ai enseigné, je le chante également. Voilà.
Question ou témoignage?
Alors, on m'a dit de faire bref. Alors, témoignage, je pourrais en parler pendant une heure de témoignage. Mais puisque j'ai une question précise à Dichat, donc à Paul Molac Marie-Jeanne Verny, que j'ai rencontré plusieurs fois. Prévoyez-vous de contacter M. François Bayrou pour faire avancer l'enseignement bilingue et faire appliquer la loi Molac, donc qui n'est pas appliquée, mettre fin donc au saupoudrage et au blocage actuel dans l'enseignement?
Merci pour cette question, François Bayrou, maire de Pau. Qui est-ce qui veut répondre? Paul Molac, peut-être?
Oui, bien sûr, c'est déjà fait.
Et donc? Pas de réponse.
Ah bah, on
mais il y a beaucoup de dossiers sur sa table.
Oui, il y a beaucoup. Alors, il faut discuter directement avec l'Éducation nationale, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui dépendent de l'Éducation nationale. On a aussi un problème de changement de la Constitution, parce que la façon dont le Conseil constitutionnel voit les choses est contraire à ce que les députés et les sénateurs veulent. Donc on a un vrai problème avec ce Conseil constitutionnel.
Marie-Jeanne Verny, d'un mot, vous souhaitez qu'à l'école, des auteurs en langue régionale soient enseignés. Amin Maalouf, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, y est favorable. Il vous l'a écrit, c'est peut-être pour dans quelques semaines, quelques mois ?
Alors, nous l'avons rencontré donc à l'Académie française le 18 décembre, suite à une pétition lancée il y a 3 ans, pour demander que tous les enfants de France, tous, sachent qu'en France, il existe des littératures dans d'autres langues que le français. Cette pétition qui atteint les 17 000 signatures, pour un sujet un peu pointu, c'est pas mal, ben elle a recueilli l'intérêt d'Amin Maalouf via votre confrère de l'Express, Michel Feltin-Palas. Donc Amin Maalouf, il est parfaitement convaincu de cette richesse. Lui-même ayant écrit une belle pièce sur un texte de Troubadour, L'amour des Luengs, L'amour de Luengs, de Geoffrey Rudel. Donc, il connaît cette diversité. Ayant écrit lui-même sur les identités meurtrières, il sait de quelle manière les identités peuvent être meurtrières ou productrices. Donc, effectivement, nous continuons ce combat parce que, si vous voulez, je pense, par expérience, que nous souffrons plus de la non-connaissance que d'une véritable hostilité.
On l'a bien compris. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Verny. Je suis obligée de vous couper parce qu'on n'a plus de temps possible. Mais en tout cas, Amin Maalouf, donc on peut être gardien du français puisque c'est son rôle à l'Académie française et soutenir les langues régionales. Merci à tous les deux, Marie-Jeanne Verny, Paul Molac et à vous, auditeurs d'Inter, de nous avoir appelés si nombreux aujourd'hui. 13h45. Une semaine dans leur vie. Nous passons toute cette semaine dans une famille d'accueil thérapeutique. Ces familles qui accueillent 24 heures sur 24 un malade psychiatrique pour lui apprendre l'autonomie et pourquoi pas un jour lui permettre de vivre seul. Nous sommes à Neuvillers-sur-Moselle, entre Nancy et Épinal. Isabelle et Mickaël y accueillent Philippe, Marcel et Franck, tous trois atteints de schizophrénie. Le couple est employé par le centre psychothérapique de Nancy et notre reporter Lise Roseveille est avec eux.
Bonjour, enchantée, Lise.
Bonjour.
Marcel.
Bonjour Marcel. Marcel.
C'est le doyen, Lise. Philippe.
Ça fait 11 ans que je suis ici, ça me plaît beaucoup. Voilà, je suis rentré le jour de mon anniversaire, c'était le plus beau cadeau. Ah. Voilà.
Alors, je m'appelle Isabelle Berbé-Zeller, je suis accueillante familiale thérapeutique depuis 13 ans maintenant. Nous accueillons donc mon mari et moi, 3 personnes, à notre domicile, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Alors moi je m'appelle Mickaël Berbey et je suis accueillant familial thérapeutique depuis 4 ans et demi.
Alors donc je travaillais donc dans le milieu du handicap. Moi je n'y trouvais plus mon compte parce qu'en fait j'étais tout le temps frustrée parce que je trouvais qu'il y avait des besoins et ça répondait pas à leurs demandes du tout. Les sorties en groupe alors que des personnes n'avaient pas forcément envie de sortir en groupe et donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé de tout arrêter en fait pour devenir accueillante familiale thérapeutique puisque là ça me laisse une ouverture donc d'autonomie, de pouvoir proposer des activités individuelles aux personnes que j'accueille. Je me sens nettement plus utile.
C'est très grand.
Oui, c'est vrai que c'est une grande maison. C'est pour ça autant faire en profiter des gens qui en ont besoin d'ouvrir sa porte. Plusieurs chambres. Donc des chambres bien évidemment individuelles, des chambres qui peuvent personnaliser selon leurs souhaits. Tu peux faire visiter ta chambre. On me compare à Sœur Teresa, alors ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. Moi j'accueille des personnes chez moi, je prends des vacances, ça travaille, voilà, c'est pas du bénévolat que je fais, c'est un métier à part entière. Ma mission, c'est de les accompagner vers l'autonomie. Nous avons été agréés. Alors au départ, en fait, nous rencontrons psychiatres, psychologues qui viennent à notre domicile hein, pour obligatoirement nous évaluer.
Vous avez un contrat de travail. Vous êtes rémunéré combien d'ailleurs ?
Je suis rémunéré donc par personne, 2000 euros par mois. Donc 2000 euros par mois, ça englobe tout. L'électricité, le quotidien, donc des personnes, l'alimentation, ça englobe tout.
C'est
La chambre de Marcel.
Mes affaires là dans l'armoire, mes CD, la télé.
C'est votre petit cocon à vous ?
Oui, mon cocon quotidien, oui.
Il y a des personnes qui font le choix de faire de l'Airbnb, chambre d'hôte. Bah, moi, c'est chambre d'hôte tout le temps, c'est ça. Mon métier.
Après, bon, c'est sûr que des fois, quand on rentre le soir, ou voilà, on a envie de se mettre devant la télé, tranquille. Et puis voilà, quand il y a Franck ou Marcel ou Philippe qui vient, et puis qui veut discuter, ou qui... des fois, bon, voilà, c'est sûr que ça peut... Voilà, oui, c'est dérangeant, mais je veux dire...
On pense quand même à nous, hein. Moi, je sais qu'on peut très bien aller au restaurant. Ben, on a notre personne remplaçante qui va venir. Mais on a une vie sociale, comme tout salarié. On n'est pas reclus dans notre maison, confiné avec trois personnes handicapées. C'est pas ça du tout, en fait.
Lise Roseveille en Lorraine entre Nancy et Épinal. Toute cette semaine dans cette famille d'accueil. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi à 13h49, nous sommes avec notre linguiste spécialiste du français de nos régions. C'est Mathieu Avanzi. Mathieu, à quelques jours du début du festival de la bande dessinée d'Angoulême, vous nous parlez des mots du dessin, à commencer par le crayon.
Effectivement, encore faut-il savoir comment l'appeler, parce que ce petit outil fétiche des dessinateurs n'a pas le même nom d'une région à l'autre. Et les débats qu'il engendre sur les réseaux sociaux sont parfois aussi animés que des bulles de BD. Si on regarde la carte qui montre la répartition des synonymes du crayon, force est de constater que les Français sont fondamentalement divisés. Au premier coup d'œil, on aperçoit une grande rupture entre ceux de la moitié sud, qui disent plutôt crayon à papier, et ceux de la moitié nord, qui préfèrent la variante crayon de papier. D'ailleurs, dans les régions les plus périphériques, notamment dans les Alpes du Sud et en Ariège, c'est la variante crayon gris qui est la plus fréquente. Quant à nos amis du Nord-Pas-de-Calais, de même que ceux des Pays de la Loire, ils préfèrent dire crayon de bois. Enfin, dans une partie de la Bretagne, c'est la variante crayon de papier qui remporte les suffrages dans l'Est. Sinon, anecdotiquement, on utilise le mot crayon tout court.
Voilà, c'est plus efficace. D'où viennent toutes ces variantes, Mathieu ?
C'est une excellente question, Jérôme. Et comme souvent en linguistique, les différences qu'on observe aujourd'hui sont le résultat d'usages qui se sont figés au fil du temps. Je vais prendre un exemple qui va me permettre d'aller droit au but. Pour affûter la mine de votre crayon, vous utilisez, j'imagine, Jérôme, un taille-crayon, n'est-ce pas ?
Exactement.
Eh bien, figurez-vous qu'autrefois, on disait plutôt aiguise-crayon. Ce terme, aujourd'hui, il est vieilli dans la langue standard, mais il reste bien vivant dans le sud-ouest de la France et en Bretagne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au début du XXe siècle, quand les aiguisoirs sont devenus miniatures, les Parisiens ont commencé à utiliser le mot taille-crayon à la place de aiguise-crayon pour rendre compte de ce changement de taille. Dans les écoles de formation des enseignants du Sud-Ouest, de Bretagne, le mot aiguise-crayon est en revanche resté. Et à un moment où, où ils ont commencé leur carrière, les instituteurs, les institutrices qui ont été formés dans ces régions ont donc continué à utiliser le terme aiguise-crayon. Ils ont alors transmis ce mot à leurs élèves et souvent ils réalisaient même pas qu'il s'agissait d'une variante qui était en fait devenue régionale. Au final, on voit que l'école, en plus de diffuser une norme nationale, elle joue un rôle important dans la perpétuation inconsciente des usages régionaux.
Ça soulève aussi, Mathieu, la question des normes, hein, des lois de la langue. Est-ce qu'il y a une bonne façon de parler des outils du dessin en français ?
Alors, je dirais qu'il n'y en a pas une, mais il y en a au moins deux. Le rôle des enseignants dans la transmission du vocabulaire scolaire, on l'a vu, nous montre que la norme peut varier selon la région dans laquelle on se trouve. D'un côté, on a donc le bon usage, qui est celui de la capitale, associé à une norme nationale que véhiculent d'ailleurs les grands médias, hein, comme France Inter. Mais de l'autre, on peut aussi considérer la norme comme l'usage majoritaire des personnes qui nous entourent, l'usage local. Donc, en ce sens, le bon usage dépend aussi bien du contexte régional que des conventions nationales. Et d'ailleurs, Jérôme, sachez que sur la question des dénominations du crayon, même l'Académie française, on y revient, hein, ce qu'on disait vos invités tout à l'heure au sujet des langues régionales, eh ben, l'Académie française recommande dans sa rubrique « Dire, ne pas dire » la variante crayon à papier, mais elle donne les autres formes comme également valides dans les régions où elles sont employées. En fait, la langue, c'est un peu comme un crayon. Elle trace des dessins différents selon les mains qui les tiennent.
Merci Mathieu Avanzi pour ses explications. De C'est la France à C'est une chanson, c'est une jeune chanteuse qui est avec vous aujourd'hui, Frédéric Pommier, Adèle Castillon, que l'on retrouve à votre micro.
Elle est actuellement en tournée.
avec son nouveau projet Crève-Cœur, un EP qui fait suite à son premier album solo sorti il y a 2 ans. Et c'est d'un morceau étonnant d'Henri Salvador qu'elle a choisi de me parler, « J'étais une bonne chanson », un titre lié pour elle à une rencontre très importante pendant son enfance.
On est en 2010, j'ai 9 ans à peu près et mon père est muté en Normandie, donc avec toute ma famille on le suit. Moi j'ai grandi à Nantes, j'ai toujours vécu à Nantes. On passe d'une grande ville à la campagne, on se retrouve dans un trou un peu paumé et on loue cette maison étrange qui est un moulin à un vieux monsieur, Papiton, puisque c'est comme ça qu'il voulait que je l'appelle. Et ce vieux monsieur assez extraordinaire devient un personnage assez emblématique de ma vie que je décide un peu d'adopter comme mon grand-père. Moi, j'ai jamais connu mes deux grands-pères, donc j'en fais tout de suite une figure de grand-père pour moi. Il habitait la petite maison qui était juste à côté de ce moulin, située juste à côté des rapides de Liton. Et donc, il avait un peu cette passion autour de cette rivière, c'est pour ça qu'il voulait que je l'appelle Papiton. Et il faisait des travaux dans sa maison à côté, et moi, je venais toujours, parce que quand on est enfant, on s'ennuie beaucoup. Moi, je me mettais à côté de lui, et puis je le regardais, je l'aidais. Et il y avait toujours avec lui une petite radio qui était toujours branchée sur Nostalgie. Et donc, il m'a fait découvrir moi, des chansons que j'avais jamais entendues de ma vie. Mais à chaque fois, il me rappelait que c'était pas les meilleures chansons et que le meilleur chanteur de l'univers, c'était Henri Salvador. Et donc, il chantait toujours à tue-tête cette chanson qui s'appelle « J'étais une bonne chanson ».
Un jour sans toi.
Vous entendez ? Cette chanson, c'est moi. J'étais la première à être enregistrée sur disque. Écoutez-moi bien, j'étais une bonne chanson.
Et ce monde est triste, un jour sans toi.
Joli, n'est-ce pas ?
C'est en 1968 qu'est sortie cette chanson d'Henri Salvador, Frédéric.
Une adaptation d'un succès américain qu'Adèle Castillon écoute encore régulièrement, en pensant chaque fois à ce fameux Papiton rencontré à l'âge de 9 ans en Normandie.
Plus tard, on est retourné à Nantes. Je suis restée très longtemps en contact avec Papiton, on s'appelait énormément. Et puis, malheureusement, un jour, il est décédé. Alors, pour la petite anecdote, ceux qui croient un peu aux choses extraordinaires, moi, j'ai rêvé de sa mort avant de l'apprendre. J'ai rêvé que j'étais dans le moulin où j'ai habité, que je sortais du moulin, que je voyais quelqu'un se noyer dans Liton, et que j'essayais de le sortir à tout prix, mais que cette personne refusait que je l'aide à sortir en disant « c'est pas grave, ça va aller ». Et le soir, la journée qui a suivi ce rêve, je suis rentrée chez moi et mon père m'a annoncé la mort de Papiton, noyé dans Liton. Et la première chose que j'ai faite une fois que j'ai appris son décès, c'est que j'ai écouté cette chanson qui avait une saveur toute particulière, parce que d'un coup, elle a pris un autre sens dans cette chanson qui est très humoristique et qui incarne très bien qui était Papiton, cette personne qui était très joyeuse, très théâtrale. C'est vraiment le cas dans cette chanson d'Henri Salvador qui prend plusieurs personnages, qui fait des imitations. Mais à la fin de la chanson, il dit « Souvenez-vous de moi, j'étais une bonne chanson ». Cette phrase m'a ouverte en deux quand je l'ai entendue pour la première fois, vraiment après le décès de Papiton. Je me suis dit « Mais oui, Papiton, c'était une bonne chanson, c'était cette chanson-là, et bien sûr que je me souviendrai de lui toute ma vie. »
Ils ont fait de moi un tube, mais à quel prix ?
Maintenant, avant de mourir définitivement, je voudrais être chanté par mon copain Henri Salvador. Je vous dis adieu, mes amis. Souvenez-vous de moi, j'étais une bonne chanson.
Il ressemblait à quoi, Papiton ?
Papiton, il était très grand, très têtu. C'était un très bel homme, je pense, quand il était plus jeune. Il ressemblait au grand-père de mes rêves, en fait. Hein. Et il aimait tellement la musique que je pense qu'il aurait été très fier et très heureux de me voir sur scène. Ouais.
Cette chanson, c'est une chanson d'amour, mais elle peut convenir aussi à ce que vous auriez envie de dire à ce Papiton ?
Oh oui, complètement. C'est pour ça qu'elle avait vraiment une saveur... très particulière une fois qu'il est parti et que je l'ai remise dans mes oreilles. Un jour sans toi, c'est un jour sans soleil. Bah ouais, c'était exactement ça. Parce que le rayon de soleil de cette période-là, c'était lui.
Et ce monde est triste sans toi.
« J'étais une bonne chanson, Henri Salvador. C'était donc, Frédéric, le choix d'Adèle Castillon.
Adèle Castillon qui sera mercredi sur la scène de l'Olympia où elle chantera notamment les titres de son nouvel EP Crève-Cœur.
Écart de génération aujourd'hui dans C'est une chanson. Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Notre invité Alessandro Morbidelli va nous raconter l'histoire de notre système solaire.
A tout de suite.